Alors bonsoir à tous. Ce soir, on va parler un petit peu de ce que peut être la vie sacerdotale. C'est-à-dire que dans le baptême, il est dit on devient prêtre, prophète et roi. Dans Vatican II, il y a une insistance dessus. Et c'est vrai qu'on a du mal à conceptualiser ce que c'est que d'être prêtre. Parce qu'on se dit, les prêtres, c'est les autres là qui sont en aube, ils font bien leur boulot, moi, je suis laïque, c'est déjà lourd de m'occuper de mon époux, mes enfants, mon travail, etc. Et être prêtre, ça ne parle pas forcément. Alors, il y a un passage dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, qui parle d'un prêtre, justement. Là, je suis dans l'introduction, hein. Zacharie chapitre 3, et voilà ce qui est dit. « Puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Or, le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit au Satan, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan, oui, que le Seigneur te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Quant à cet homme-là, n'est-il pas un tison arraché du feu ?» Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. L'ange reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui ses habits sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'ai débarrassé de ton péché, on te revêtira d'habits de fête. » Et il reprit, « Qu'on mette sur sa tête un turban propre. » Ils lui posèrent sur la tête le turban propre, ils lui mirent des habits, et l'ange du Seigneur se tenait là. Alors l'ange du Seigneur fit à Josué cette déclaration, « Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, si tu marches dans mes chemins, si tu gardes mes observances, toi-même tu gouverneras ma maison. » Tu veilleras aussi sur mes parvis, et je te ferai accéder au rang de ceux qui se tiennent ici. Alors on a en fait un homme, Josué, qui désigne le prêtre par excellence, c'est une des figures typiques du sacerdoce, comme Aaron, comme Melchisédek, comme Jésus aussi maintenant pour nous. Et cet homme-là, finalement, n'a pas la capacité de se tenir en présence du Seigneur parce qu'il a des habits sales. Et le démon se sert contre lui. Parce que le démon, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est ce qui est écrit dans Job et dans les traditions juives, on trouve souvent ça, où des gens ont eu des visions et ils racontent ça, que leur mode d'action, parce que c'est des anges avant tout, c'est qu'ils vont revendiquer auprès du Seigneur, et lui mettre sous les yeux des choses en disant, bah, une telle a commis un péché, et je voudrais avoir du pouvoir sur cette personne, parce que cette personne s'est mise sous mon commandement, vu qu'elle a suivi le mauvais exemple des démons, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'ils font de manière ordinaire. Et donc le Seigneur va tantôt dire, d'accord, je te donne l'autorisation pour le tenter, parce qu'il a en tête un chemin de vie pour faire grandir la personne. Et tantôt, il va y avoir sa miséricorde qui va s'exprimer, et là c'est ce qu'on trouve, que le Seigneur te réduise au silence. Alors, on dit l'ange du Seigneur, parce que peut-être c'est soit une des personnes de la Trinité qui intercède au sein de la Trinité, voilà, parce que Jésus, miséricorde, ou l'Esprit Saint, miséricorde, ou les entrailles de miséricorde du Père, vous voyez. Soit ça peut être un ange, voilà, qui est touché par voilà, l'ange de Catherine, qui intercède auprès d'elle en disant que le Seigneur te réduise au silence, en vertu de toutes les grâces qu'elle a acquises par ailleurs, par sa sainte vie. Vous voyez, il y a un débat au ciel, en fait, hein, et régulièrement, le Seigneur, il dit, ok, eh ben, elle ne sera pas tentée sur ce coup-là, parce que je donne raison à l'ange qui plaide en sa faveur. Soit une personne qui prie, qui à un moment va prier pour la personne, et là c'est ce qui s'est passé, c'est tais-toi Satan, maintenant on va revêtir cet homme, ce prêtre, d'habits propres, et il pourra officier en ma présence, et il est dit, je te ferai accéder au rang de ceux qui se tiennent ici. C'est même un revirement, parce que ceux qui ont déserté le paradis, ce sont les mauvais anges, ils ont perdu leur place au ciel, et ces places-là en fait vont être occupés par les rachetés, c'est-à-dire tous ceux qui ont une sainteté de vie, une grande sainteté de vie, qui se sont laissés dévêtir de leurs habits sales et qui se laissent revêtir d'habits propres au niveau de leur sacerdoce, de leur capacité d'être saints et d'intercéder pour les autres, parce que leur dimension de prêtre, finalement, leur confère une proximité avec Dieu, une capacité d'intercéder. On dit, cet homme-là, il est un tison arraché du feu. Voilà, c'est le Seigneur lui-même qui a dit, je vais prendre cet homme-là qui était complètement brûlé, complètement noir, comme l'épouse du Cantique qui dit, je suis noir parce que je n'ai pas surveillé ma vigne. Au début du Cantique, c'est écrit ça. On sent un regret dans sa voix quand elle le dit. Et le Seigneur, il fait ça, en fait. C'est sa miséricorde parfois qui s'exprime quand il dit, bah, moi là, je préfère un chemin pour la personne qui n'est pas un chemin où la personne va être tentée et puis il va y avoir des épreuves, etc. Là, ça va être un chemin où je vais la purifier de manière gratuite pour en faire un prêtre. Voilà. Donc le prêtre, c'est quelqu'un déjà qui a reçu une grâce de Dieu et qui a reçu la pureté nécessaire. Voilà. Et cette pureté est une grâce pour le monde, parce que ce qui fait qu'un prêtre est efficace, c'est qu'il est pur, et on verra ce que représente la pureté. Dans le livre d'Amos au chapitre 2, il est dit que c'est Dieu qui suscite des prophètes et des nazirs. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle avec regret, qui dit « Ne vous avais-je pas suscité des prophètes et des nazirs ?» Amos 2, 11. Donc les prophètes, c'est les gens qui vont entendre la voix du Seigneur pour pouvoir, on l'avait dit la dernière fois, en allant voir des gens de leur entourage, faire prendre une bifurcation vers un chemin de vie finalement, alors que le peuple allait vers un chemin de mort, ou une personne en particulier allait vers un chemin de mort. Le prophète, il reçoit une parole, il est suscité par le Seigneur pour qu'on tourne à droite vers le chemin de vie. Et des nazirs, c'est ceux qui font un vœu. Donc c'est pas uniquement les prêtres, ça va être tous ceux qui disent « je fais une promesse au Seigneur » Donc on peut, nous, aussi faire des vœux en disant je fais le vœu de rentrer dans tel ordre religieux, je fais le vœu de ne pas boire de vin, Seigneur, tant que tu ne m'exauceras pas sur tel point. Vous voyez, c'est des pactes qu'on contracte avec le Seigneur pour accélérer la grâce, pour toucher sa miséricorde. Et les nazirs, donc ça va représenter les prêtres aussi, parce qu'ils font d'abord un vœu de servir le Seigneur, de donner toute leur vie. Voilà. Donc c'est vraiment le Seigneur qui, dans sa miséricorde, suscite des prophètes et des prêtres, et ce qui fait que il y a moins de prêtres et de prophètes qui entendent l'appel, c'est ce qui est toujours dit dans Amos 2:11. Vous les avez fait boire, vous les avez persécutés. Vous lirez en fait. Ce sont des éléments de tiédeur, d'éloignement du Seigneur qui tue la grâce en fait avant qu'elle se manifeste à travers quelqu'un qui entend son appel au prophétisme, ou à être prêtre, ou les deux. Et dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, verset 6, il est dit que dans les derniers temps, nous serons appelés prêtres du Seigneur. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, on avait dit la dernière fois, dans le livre du prophète Joël, il était dit, en ce temps-là, je susciterai, vos filles et vos filles deviendront prophètes, et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que, il y aura beaucoup de gens qui seront prophètes, qui ne l'étaient pas avant. Et ben, dans les derniers temps, il y aura aussi beaucoup de prêtres, c'est-à-dire que le Seigneur va déplacer le sacerdoce progressivement, et pour le partager entre plus de personnes, et donner les capacités de prêtre à plus de personnes que ceux qui sont prêtres officiels, en fait. Même si peut-être que les prêtres délégués ne consacreront pas le pain et le vin, ne donneront pas l'absolution, et ben, il y aura quand même une capacité de consacrer le monde qui nous entoure, et de faire venir le pardon de Dieu sur des gens. Sans que ça soit aussi puissant que pour un prêtre ordonné, il y a quand même ça dans les grâces sacerdotales, dans le sacrement du baptême. Voilà. Donc, le plan du topo, ça va être un plan qui comporte plein de parties. D'abord, bref historique sur les prêtres, ce qui est dit sur les prêtres dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Voilà. Ensuite, le rôle du prêtre. Il a un rôle assez sur plein de choses. Donc c'est ce que dit l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Je vais essayer de brasser le plus possible pour montrer qu'il y a une unité qui est très forte dans les traditions juives et dans ce qui est dit dans les textes magistériels. En fait, c'est exactement la même chose ou quasiment qui est dit, avec peut-être une sainteté encore plus grande des prêtres de la Nouvelle Alliance, parce qu'on a les sacrements, et ça c'est très fort, c'est une grâce qui est conséquente. Donc ensuite, on essaiera de répondre à la question « Pourquoi Dieu suscite-t-il des prêtres ?» Ensuite, on regardera un point un petit peu particulier, moi qui me paraissait intéressant pour rentrer en matière, qu'on détaillera, c'est le fait de bâtir des autels, parce qu'un certain nombre de personnages dans l'Ancien Testament, notamment, bâtissent des autels. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondateur dans la vie d'un prêtre, voilà, de bâtir des autels. Et on va s'attarder sur ce point-là. Et les derniers points qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais je vous les donne quand même, c'est de regarder un petit peu les limites et faiblesses des prêtres, ce qui peut donc nos faiblesses à nous sur la partie sacerdotale. Quelles sont les conditions, partie suivante, quelles sont les conditions pour devenir prêtre et comment on est consacré prêtre finalement, comment on devient prêtre. On fera un détour aussi par les textes magistériels, donc en fait les textes en vigueur de l'Église et ce qui est dit de plus par rapport à tout ce qu'on va dire par rapport à la théologie de l'Ancien et Nouveau Testament. Et puis on regardera aussi l'étude de quelques prêtres de référence, Melchisédek, Aaron, Sadoc, enfin, de regarder un petit peu ces personnages, ce qui est dit d'eux et ce que ça peut apporter pour nous, parce que effectivement, quand on voit des exemples dans la Bible, on s'identifie toujours, quoi. On se dit, je suis comme lui là-dessus, je suis pas comme lui là-dessus. Et la Bible est faite aussi pour éduquer. La Bible ne cache pas les bonnes et les mauvaises choses, voilà, la Bible dit les choses. Et ça, je trouve ça intéressant. Et on reviendra justement sur le rôle du prêtre qu'on va esquisser aujourd'hui. On va lister un petit peu ce que fait un prêtre, d'après la Bible. Mais on y reviendra, en fait, pour voir en quoi, nous, on peut l'interpréter d'une manière spirituelle pour aujourd'hui, en fait, voilà. Mais ça me paraissait peut-être un peu tôt de commencer par ça, alors que, à mon avis, pour rentrer un petit peu dans ce que c'est qu'être un prêtre, il y a besoin de voir leur cheminement, la manière dont les prêtres sont devenus prêtres, voilà. Donc, si je reprends, un bref historique sur les prêtres, quels sont les rôles du prêtre? Pourquoi y a-t-il des prêtres? Les prêtres bâtissent des autels, alors... On va donner des exemples et essayer d'interpréter ça. Pourquoi ces autels? Qu'est-ce que ça représente? Et la fois d'après, on regardera les limites et les faiblesses des prêtres, leur consécration et les conditions pour être prêtre, enfin plutôt les conditions pour être prêtre et comment on devient concrètement prêtre en étant consacré. Les textes magistériels sur le sujet, enfin ce qui est dit en bref, et l'étude de quelques prêtres de référence et revenir sur le rôle des prêtres. Voilà, ça fait beaucoup de... et ça faisait trop pour aujourd'hui. Donc autant prendre le temps. Alors, un bref historique sur les prêtres. Alors, tout d'abord, il faut savoir que chez les peuples qui environnent Israël, la fonction de prêtre est généralement exercée par le roi. Quand on regarde chez les Assyriens, les Égyptiens, voilà, en Mésopotamie, c'est les rois qui sont prêtres, en fait. C'est eux qui font à la fois le berger du peuple, berger du troupeau, qui commande, qui exerce l'autorité, et dimension sacerdotale, de faire venir les grâces du Seigneur, de bénir, etc. Et donc, il y a une tentation permanente, forcément chez les rois d'Israël, de vouloir faire exactement comme les prêtres. Dans les faits, on verra qu'ils le font, les rois sont aussi prêtres, mais il reste quand même des choses qui sont réservées aux prêtres, notamment Saül, à un moment, offre un sacrifice, alors que... Samuel, qui était prophète et aussi prêtre, lui avait dit « Attends-moi ». Voilà, on voit qu'il y a toujours cette tentation de vouloir s'accaparer une place qui n'est pas la nôtre. Comme sainte Thérèse, en fait, qui dit « Je veux toutes les grâces ». Mais elle était un bon exemple, elle a été docteur de l'Église, parce qu'elle s'est à la fois accaparée les grâces tout en respectant la hiérarchie, l'harmonie que le Seigneur avait instituée. Voilà, ça c'est le bon exemple à suivre, je dirais. Et les mauvais exemples, ça va être... Il y a plusieurs rois d'Israël qui, à certains moments, commettent le péché grave, de faire le sacrifice en lieu et place du grand prêtre dans le temple. Et ça, c'est quelque chose de... On devrait admirer chez nos frères prêtres leur dimension sacerdotale, qui est très belle et qui est très marquée, je dirais, parce que eux, ils ont consacré toute leur vie à ça. Mais ça devrait s'arrêter à... je vais calquer un petit peu ma dimension sacerdotale, ma capacité d'être prêtre sur eux sans usurper les choses qui leur reviennent de droit. Voilà, c'est faut trouver la bonne limite, forcément. Donc on a les patriarches dans les premiers temps de l'Ancien Testament. Les patriarches, donc Abraham, Isaac, etc. Ils construisent des autels, ils offrent des sacrifices. On voit Caïn et Abel, ils offrent des fruits, des animaux. Vous voyez, donc en fait n'importe qui, enfin surtout on va dire les patriarches, les responsables de famille, exercent ce rôle de prêtre. C'est un sacerdoce familial. Voilà, ça c'est la première époque, je dirais, des prêtres. Alors ensuite, on a une charnière à partir de Moïse. Vous savez, Jacob a 12 fils, et ses 12 fils engendrent les 12 tribus d'Israël. Toute leur descendance, les noms de ses fils, ça deviendra les noms des 12 tribus d'Israël, et chaque tribu va recevoir, avec l'histoire qui est la sienne, des grâces particulières, et le Seigneur va donner des grâces aussi par rapport à leurs faiblesses particulières. Et à partir de Moïse, ça va être les Lévites, donc les descendants de Lévi, qui vont se spécialiser et devenir prêtres petit à petit. Voilà. Et dès lors, on va dire, quand on va dire lévite, ça veut dire prêtre, même si le sacerdoce familial continue à s'exercer. Mais disons que le rôle de prêtre va se spécialiser et les sacrifices vont se diversifier. On va complexifier les sacrifices. Non pas juste en offrant des fruits, des légumes, des bénédictions à Dieu ou des prières, mais aussi en faisant des sacrifices plus poussés dans le temple, avec de l'encens, avec, vous voyez, on va aller, alors, non, il n'y a pas encore de temple, excusez-moi, mais on va petit à petit complexifier les choses. Avec forcément le pendant de ça, c'est la tentation de trop se centrer sur les rites, parce que dès lors que ce qu'on offre à Dieu, on le complexifie, par exemple une prière un petit peu complète, la tentation c'est toujours d'être un petit peu aveuglé par le texte de la prière, ou par il faut faire ça, ensuite ça, ensuite faire ce geste-là, et vous voyez, ou la messe même, la tentation qu'on a à la messe, c'est de rabâcher comme les païens, voilà. C'est quand les rites deviennent plus complexes, on touche à... On a une capacité peut-être de toucher le mystère de la divinité de manière plus parfaite, parce que dans l'harmonie, il y a, c'est pas juste le règne des animaux, des oiseaux, enfin des plantes, etc. C'est plus complexe que ça. En fait, il y a des espèces, il y a des taxons, il y a des et même au sein d'une espèce, il y a plein de, vous voyez, il y a une variation dans la nature qui est infinie. Et ben dans les rites, c'est pareil en fait. Et les rites sont un peu à l'image de ce qu'on trouve au ciel. Donc forcément, à la fois ça élève l'âme, et à la fois notre condition humaine fait que il y a toujours la petite voix qui nous dit attention, reste simple dans ton cœur, quoi. Voilà. Donc ça c'est à partir de Moïse, et puis à Aaron forcément, qui est le grand prêtre, qui est un petit peu un des fondateurs avec Moïse évidemment, mais c'est le grand prêtre de référence, qui était Lévite lui-même. Alors on va avoir ensuite l'époque de la royauté. Et puis notamment un roi qui s'appelle Josias, qui en 621 avant Jésus-Christ, retrouve les livres de la loi, et puis il se dit, il déterre l'Ancien Testament en fait, et il dit mais c'est génial, il va le lire au peuple, et il va se rendre compte de l'écart qu'il y a entre ce que Dieu demande, et ce que le roi fait, ce que les prêtres font, etc. Et lui il va carrément faire une réforme importante au niveau du sacerdoce, en disant, maintenant je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un temple, c'est Jérusalem. Donc on va supprimer tous les sanctuaires locaux, tous les endroits où il y a des sacrifices autres qu'à Jérusalem, et tous les prêtres de campagne, on va les rapatrier à Jérusalem, et ils vont officier, et ça va faire un énorme collège de prêtres à Jérusalem, les gens viendront faire des pèlerinages, donc on a une image, je dirais, de une fédération du culte et de la doctrine, en fait, c'est un petit peu la préfiguration de... Un peu comme s'il faisait un concile, en fait. Sauf que lui, il est roi, alors il statue comme ça. Mais on peut imaginer qu'il a pris conseil, qu'il a prié avant. Peut-être qu'il est allé voir les prophètes de son époque pour demander « qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que forcément, le prêtre qui tue des taureaux sur le même autel que celui qui offre à Baal ou à je sais pas qui, eh ben, on va le voir après dans les règles de sainteté. Comme il introduit des éléments étrangers, en fait... C'est comme s'il scandalisait, en fait, parce que juste avant lui, il y a peut-être quelqu'un qui fait flamber des serpents en faisant comme ça devant un autre d'autres dieux, et donc c'est pas, enfin, on n'imagine pas qu'ici il y ait entre deux messes, en fait, des gens qui viennent faire d'autres sacrifices à d'autres divinités. Ça paraît inconcevable. Bah, à l'époque, c'est ça qui se passait, parce que dans chaque localité, c'était la culture, finalement, d'accueillir les dieux de tout le monde. Voilà. Et il y a des Babyloniens, puis il y a des Assyriens, et puis il y a des Égyptiens, etc. Et puis, bah, il y a l'autel où il y a les statues de tous les dieux, en fait, alignés, quoi. Voilà. Mais le dieu d'Israël, lui, n'est pas comme ça. Lui, il dit, ben moi, je veux de l'exclusivité, quoi. C'est pas les sacrifices de tout le monde juxtaposés. Et c'est le combat de la vie chrétienne, d'ailleurs. C'est d'arracher les mauvaises herbes de notre vie chrétienne. Voilà, donc ça, c'est dans 2 Rois 23, 8. La réforme de Josias. 2 Rois 23, 8. Et puis après, on a l'exil, donc le peuple qui est déporté. Et puis avec l'exil, donc il y a toute une réflexion sur le sacerdoce, parce que il n'y a plus de temple, enfin il est aux mains des ennemis, et ça va être Sadoc qui va devenir la référence du prêtre, parce que Sadoc, c'est le symbole du prêtre qui est resté fidèle, malgré les déviations de tout le reste du peuple et d'une partie des prêtres. Voilà, qui comme Aaron, un moment, cédait au peuple pour offrir le veau d'or, voilà, il y a une manière de pactiser avec l'occupant ou avec d'autres divinités, et Sadoc, c'est celui qui est resté fidèle, et dans Ézéchiel, on voit ça, qu'il y a des promesses de Dieu pour lui, et il y a un transfert de la grâce, vous voyez, Dieu dit, ben, j'envoie mes grâces, et puis quand certains la refusent, comme avec les mauvais anges, eh ben, je transfère la grâce, et c'est les prêtres, ou ceux qui utilisent leur dimension sacerdotale, et qui la reçoivent du Seigneur, qui se laissent laver par le Seigneur, qui vont se retrouver au ciel, même au-dessus de certaines hiérarchies angéliques, parce qu'ils vont prendre la place. Et Sadoc, il est celui qui prend la place de la famille d'Aaron, en fait. C'est comme s'il y avait eu, une descendance, une succession des prêtres, et puis à un moment, il y a une interruption, parce que ils ont refusé la grâce, ils ont péché gravement, et puis c'est Sadoc qui prend la suite des grâces. Voilà. Donc il y a des persécutions par Antiochus Épiphane, et au temps d'Hérode, eh ben, on avait les grands prêtres qui étaient fort proches du pouvoir politique. Voilà, donc les prêtres sont nommés d'une manière générale par le pouvoir politique. Ça, c'est quelque chose de moi qui m'a toujours surpris, et dans l'Église encore aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'est des gens comme notre président d'aujourd'hui ou comme des personnes qui sont complètement dans la politique et pas forcément du tout chrétiens. Enfin, c'est des responsables d'État qui vont mettre leur veto, enfin qui vont dire pour le nouvel évêque de tel département, l'Église va proposer plusieurs évêques possibles. Et puis ils vont dire, bah, c'est lui qu'on prend. Vous voyez, c'est le pouvoir politique qui fait ça. C'est surprenant. Le Seigneur, je dirais, a maintenu un lien entre la politique et le sacerdoce, de manière à dire, bah, vous avez choisi lui, bah, je vais lui donner les grâces. C'est déjà un signe en tant que tel, quoi, que le gars qui a été choisi, un peu comme Jean 23, on s'est dit, bah, on va mettre, à l'époque, je sais pas si vous avez vu le film sur Jean 23, on va mettre ce gars-là parce qu'il nous fera pas suer, quoi. Et puis le gars, il arrive, et puis il dit, bon, j'ai entendu une petite voix dans la chapelle, et là, je crois vraiment que c'est l'Esprit Saint, on va faire un concile, les gars. et ils sont dépités parce qu'ils disent, bah, c'est pas, lui, non, c'était un faible d'esprit, quoi. Et en fait, il reçoit les grâces, quoi. C'est très beau, je trouve. Donc, je reviens au temps d'Hérode. Le prêtre qui prend la suite, c'est Jésus, le prêtre par excellence. Et en ce moment, d'ailleurs, on lit la lettre aux Hébreux. Elle détaille en quoi il y a les prêtres de l'ancienne alliance. Et Jésus, le prêtre de la nouvelle alliance, va reprendre tout ce qui était dit dans l'ancienne alliance, mais accomplir tout ça et cumuler tout ça. Et ça, c'est très beau. Et il y a une méditation qui est très profonde. Et curieusement, Jésus ne s'attribue pas le titre de prêtre. C'est-à-dire que, de la même manière, on avait dit la dernière fois qu'il ne dit pas « je suis prophète ». Il dit « nul n'est prophète en son pays », par exemple. Il suggère qu'il est prophète, que les prophètes sont persécutés, que lui va mourir et donc que lui aussi est un prophète. Il suggère qu'il est prêtre, parce qu'il dit, je vais donner ma vie en rançon. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc, celui qui sert à la base, c'est le prêtre qui est au service du reste du peuple. Et pour donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire pour accomplir le sacrifice parfait, en fait. Voilà. Donc, en fait, il est à la fois le prêtre parfait, il est à la fois la victime parfaite, et il est à la fois l'époux qui épouse son peuple par ce geste de prêtre et de victime. Vous voyez, il cumule différents rôles, comme s'il était à la fois Abraham qui a la foi, on peut dire ça comme ça, même si lui n'avait pas la foi, et Isaac qui accepte de s'offrir par les mains de son père. Vous voyez, il récapitule tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament sur les prêtres. Alors, voilà, il enseigne la parole et son accomplissement. On verra que l'enseignement, c'est un des rôles des prêtres, de donner la parole. Il est de la tribu de Juda par son père. Joseph, il est issu de la tribu de Juda. Donc, il y a une rupture. On se dit, mais alors, normalement, ça devrait être un Lévite, Jésus. Effectivement, il est de la tribu de Juda. Et en même temps, son père n'est pas son père biologique, au sens où bah, c'est l'Esprit Saint qui est venu dans le sein de la Vierge Marie. Par contre, il y a un certain nombre de traditions dans l'Église qui disent que il est issu quand même de la tribu de Lévi par sa mère, parce que, en fait, son père, Joachim, est issu de la tribu de Juda. Lui aussi. Donc Marie et Joseph ont respecté les traditions juives de rester à l'intérieur de la tribu de Juda, vous voyez. Voilà. Et par Anne, donc la mère de la Vierge Marie, il est dit que Élisabeth était sa parente, et Élisabeth était la femme du grand prêtre, donc issue de Aaron, vous voyez, de la lignée de Lévi. Donc en s'appuyant là-dessus, on peut dire Marie était issue de la famille de Lévi par sa mère. Voilà. Et un certain nombre de, si vous lisez un petit peu des prophètes comme Maëval Torta ou d'autres, il y a plein, ou Anne-Catherine Emmerich, majoritairement ils disent que Marie était issue de Lévi. En fait tous rejoint quand on étudie et ce que disent les traditions de l'Église, les textes, et puis ceux qui prient et qui reçoivent des choses du Seigneur. Donc Jésus est bien un prêtre, en étant issu de la tribu de Lévi. Alors, ensuite, l'étape ultime, ça va être la transmission du rôle des prêtres dans le baptême, parce que dans Vatican II, il est dit, par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Donc, Jésus, en instituant le baptême, et en subissant lui-même le baptême, alors que de manière absolue, il n'en avait pas besoin, eh bien, il transfère ce rôle de prêtre à tout baptisé qui accepte de s'ouvrir à la grâce. Voilà, parce que c'est d'abord la grâce, c'est d'abord un tison que Dieu arrache du feu. et ensuite forcément le cœur ouvert de la personne qui s'ouvre à la sainteté, à la purification, quoi, à se laisser inviter au banquet de noces, à enlever ses habits sales pour rentrer dans la salle des noces et officier avec le Seigneur pour pouvoir sauver l'humanité avec lui. On a l'Apocalypse et la première lettre de Pierre qui disent ça, en fait. Parce que quand dans Vatican II, on dit que les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, en réalité, c'est une interprétation de l'Apocalypse et de la première lettre de Pierre, c'est-à-dire la vocation royale, enfin la vocation en gloire. Voilà, les personnes qui intercèdent pour les autres dans la gloire, avec un encensoir d'or, tous les rachetés qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voilà, on retrouve ça. Ça désigne les baptisés, déjà sur la terre. Donc, dans le baptême, il a transféré cette possibilité pour les baptisés d'être prêtres. Et, par excellence, dans la scène, c'est-à-dire le jeudi saint, où il va instituer les prêtres que sont ses disciples, en fait, qui vont devenir des prêtres. Et donc, il leur transmet la capacité d'opérer des sacrifices, le sacrifice parfait qui est l'Eucharistie, en fait, les sacrements, l'enseignement. Donc, on voit qu'il a gardé le bon vin pour la fin. C'est-à-dire que, pendant 3 ans de sa vie publique, enfin, il a accompli Cana parce qu'il a enseigné, il a fait des miracles, il leur a appris à chasser les démons, il leur a appris à faire plein de trucs et à exercer leur sacerdoce de baptiser. Et il a gardé le bon vin pour la fin en disant, je vais poursuivre ce qui a été fait par mon père dans tout l'Ancien Testament, où on va spécialiser le rôle de prêtre pour qu'il y en ait qui concentrent la grâce d'une manière particulière pour accentuer le règne de Dieu sur la terre. C'est les prêtres, divinement, institués par l'onction des mains. L'onction d'un évêque en communion avec l'Église. Et donc ça, tout ça, c'est médité. Il y a des épîtres qui méditent tout ça, les épîtres à Timothée et à Tite, qui vont parler des anciens. On va réfléchir un petit peu sur l'organisation de l'Église, donc ça permet de méditer ça. Voilà. Et c'est là qu'on trouve le mot prêtre. Prêtre, c'est presbytéros, c'est ancien. C'est la personne ancienne. L'ancien, donc ça va être, dans tout l'Ancien Testament, on a vu, c'est plutôt les chefs de famille qui vont être les anciens, le roi qui va être considéré comme l'ancien. Comme il est dit à un certain nombre d'endroits, notamment dans le psaume le plus long, 118-119, il est dit à un endroit que « je surpasse les anciens car je médite sur ta parole ». Vous voyez, il y avait déjà une préfiguration du fait que le rôle de prêtre allait se transmettre à un moment. Voilà. Même le rôle de prophète allait se transmettre parce que le fait de méditer sur la parole de Dieu, de prier, on va avoir des racines sous la terre qui ne se voient pas. On va être comme un arbre avec des racines tellement abondantes que on va avoir une capacité de faire fleurir des grâces prophétiques, des grâces sacerdotales incroyables. En Christ, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce royal et saint. Donc, si je reprends le bref historique, on a d'abord les patriarches, sacerdoce familial, à partir de Moïse, spécialisation des prêtres, et puis ça va s'accentuer avec les réformes de Josias, avec le temple, avec les prêtres qui deviennent fonctionnaires, avec la transmission à d'autres prêtres qui sont plus dignes de recevoir la grâce. Et puis, au temps de Jésus, en fait, c'est Jésus qui accomplit le rôle de prêtre par excellence et qui transmet ça à ses disciples, à tout baptisé et aux prêtres qui l'instituent. Alors, en deuxième partie, le rôle du prêtre. Ça va, je vais pas trop vite. Vous dites ainsi. Alors, le rôle du prêtre. Le premier rôle, c'est l'enseignement. Alors, là, je me réfère au livre du Deutéronome, chapitre 33. Alors, je vais aller chercher. Chapitre 33, verset 10. Et là, on retrouve une bénédiction. Alors, il y a plusieurs endroits où des patriarches bénissent les 12 tribus. On a d'abord Jacob qui va bénir chacun de ses fils et donner, une bénédiction comme un prêtre, finalement, de père pour faire pleuvoir les grâces sur son fils qu'il connaît parce qu'il se dit « toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça ». Et donc, il demande des grâces et il dit « toi, ta difficulté, ça va être ça ». Et là, on retrouve un petit peu la même chose de la part de Moïse. Voici la bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les fils d'Israël avant de mourir. Donc il transmet, c'est un testament, où la grâce, toutes les grâces que lui il a reçues, il va la répartir sur les 12 tribus. C'est une manière d'organiser la société aussi. Et c'est une manière de la part du Seigneur de dire, il y en a certains d'entre vous qui allaient avoir tel charisme et d'autres tel charisme. Voilà, la répartition dans l'Église, c'est la même chose. Et il est dit, à partir du verset 8, on s'occupe de la tribu de Lévi. Enfin, Moïse bénit la tribu de Lévi. Et dans cette bénédiction, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une bénédiction qui est spécialement longue par rapport à d'autres tribus. Il y a un rôle assez central. Et pour Lévi, il dit, « Ton Thummim et ton Ourim appartiennent à l'homme qui est fidèle. » Donc ça, c'est des objets dont disposent les prêtres pour interroger le Seigneur sur certaines choses. On en reparlera tout à l'heure. Que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, par la querelle aux eaux de Meriba, lui qui a dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, qui a refusé de reconnaître ses frères, qui a ignoré ses fils. Donc là, je pense qu'il y a une référence à cet abandon de la famille, c'est-à-dire que le prêtre, c'est celui qui a fait le sacrifice de son père, de sa mère, de sa famille, est nul, et Pierre il dit, et nous qu'est-ce qu'on va recevoir, quoi, parce qu'on est dans ce cas-là, on ne voit plus notre femme, on ne peut pas avoir d'enfants, on ne voit plus nos familles, et le Seigneur lui donne des réponses en disant que sur cette terre, il y aura des frères, des sœurs, etc. Et on trouve ça déjà dans la bénédiction de Lévi. Verset 10, gardez la parole, veillez sur l'alliance, donc gardez la loi, en fait. Enseignez les coutumes à Jacob, la loi à Israël. Il présente le parfum à tes narines, l'offrande totale sur ton autel. Voilà, bénis Seigneur sa vaillance, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins à ceux qui se dressent contre lui, et que ceux qui le haïssent ne se redressent plus. Voilà, et ça c'est une parole qui est dite spécialement pour les gens qui sont comme la prunelle de l'œil du Seigneur, quoi. C'est les gens, les chouchous du Seigneur, parce que le Seigneur fait pleuvoir des grâces particulières par leur intermédiaire. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, une critique adressée à l'encontre d'un prêtre est quelque chose de grave dans les péchés qu'on peut commettre. Faut essayer de ne pas commettre ces péchés-là, ou que si on a été blessé, demander au Seigneur de nous aider à purifier nos blessures et à pouvoir peut-être parler avec d'autres, mais sans que ça soit de l'acrimonie qui ressorte, mais plutôt un échange pour pouvoir nous-mêmes guérir, quoi, pour pouvoir comprendre mieux le prêtre ou critiquer le roi, critiquer notre chef, critiquer le prêtre, c'est des choses en touche à la prunelle de l'œil du Seigneur, donc faut pas jouer avec ça. Critiquer un juif aussi, les péchés d'antisémitisme, c'est très grave. Il y a plein de familles qui ont plein de problèmes de maladies, de malédictions à cause de ça. Donc, je reviens au rôle du prêtre. Le premier rôle, c'est l'enseignement, c'est ce qui est dit. Enfin, garder la parole, forcément, mais c'est et enseigner. C'est cité en premier. Distinguer le sacré du profane, faire connaître le pur et l'impur. Ça, c'est Ézéchiel qui dit ça. Deuxième rôle, c'est pas forcément dans l'ordre, offrir des sacrifices matin et soir. Donc ils offrent de l'encens, ils présentent le parfum aux narines du Seigneur, ils présentent l'offrande totale sur son autel. Le prêtre, c'est celui qui va dire « Seigneur, je t'offre ça. Seigneur, je t'offre ça. Agrée-le, s'il te plaît. Je t'offre ça pour un tel qui en a besoin. » Et on a par excellence le grand prêtre qui préside à l'expiation. C'est-à-dire que le grand prêtre, ça correspond à notre pape aujourd'hui, c'est celui qui reçoit une dose de grâce particulière pour fédérer les prêtres. Et c'est Aaron, c'est Sadoc, c'est Moïse. Enfin, Moïse jouait un petit peu ce rôle-là aussi. Et donc, une fois par an, il va demander le pardon des péchés pour le peuple. Et je dirais que c'est une des choses principales qui retient la main du Seigneur. Vous avez dû lire peut-être dans une des épîtres de Paul, aux Thessaloniciens, je crois, qu'il est dit que... On parle de ce qui retient l'antéchrist. Vous savez, il y a encore quelque chose qui le retient. Et moi, c'est mon avis, dès lors que le pape est encore là, et ben en fait, il a un rôle de défense de l'Église, quoi. Hein, parce qu'il va demander, dire Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, ils sont pécheurs, Seigneur. Et en fait, il est vraiment là pour parler et dire au Seigneur, bon bah maintenant tu m'écoutes et je te fais confiance, et ça retient la main du Seigneur sur le monde qui ne mérite plus de vivre tellement il y a de péchés, de corruption, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que les papes ont besoin de nos prières. Donc ça c'était les sacrifices. Troisième rôle, il a soin de la lumière, donc de la menorah, du chandelier, de la loi. On parlait de laisser brûler sur l'autel le feu du Seigneur et de maintenir ce feu allumé. Et donc de toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de feu étranger, que ce qui éclaire le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance ou l'Église dans la Nouvelle Alliance, ce soit des choses saines, des dogmes, des choses belles qui éclairent, qui élèvent, voilà. Ça c'est le rôle du prêtre. On voit notamment que Moïse dit dans le livre de Deutéronome chapitre 20 Quand vous serez sur le point d'engager le combat, donc en temps de guerre, le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées. Écoutez Israël, vous allez combattre vos ennemis, ne craignez point, parce que le Seigneur est au milieu de vous, il combattra pour vous et vous garantira du danger. C'est beau parce que il y a une parole qui est donnée en lieu et place du Seigneur, parce que le prêtre il dit mon rôle c'est de bénir en lieu et place du Seigneur, je suis la bouche par laquelle passe le Seigneur pour fortifier l'Église dans tel combat qui a mené. Voilà, c'est le rôle du prêtre, des prêtres, d'avoir cette parole forte. Et dans l'Ancien Testament, c'était figuré par la menorah, c'est-à-dire ce chandelier à sept branches qu'on maintenait allumé, en fait. Et voilà, il y a des moments dans l'année où on l'éteignait. Enfin, il y a à Hanouka, enfin, il y a des fêtes particulières, mais voilà, rôle de la lumière. Et donc, dans la lumière, il y a aussi la loi, forcément, parce que c'est la loi, c'est-à-dire la manière juste d'interpréter la parole de Dieu. Donc, éclairer les autres, c'est aussi donner un juste éclairage, et surtout, aujourd'hui, on le voit, c'est dur d'avoir un éclairage, d'être sur le lampadaire, parce que on n'ose pas trop briller, et puis il y a plein d'autres lumières que celle de l'Église qui brille aujourd'hui. On banalise beaucoup la religion catholique, notamment. Donc, veiller sur la loi, ça c'est un des rôles clés des prêtres. Et on a vu que, petit à petit, avant l'époque de Jésus, le rôle de prêtre s'est partagé entre les pharisiens qui n'étaient pas forcément prêtres, et se sont mis à fonder des synagogues un peu partout pour enseigner aussi, voyez. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comparable à ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a eu le rôle de prêtre a été réparti plus que sur les épaules des simples prêtres, en fait. Voilà. Parce que la grâce circule, et la grâce est condensée à la fois sur les prêtres et sur ceux qui veulent bien suivre le Seigneur, recevoir les grâces, et notamment dans les derniers temps. Et on était dans les derniers temps avant l'avènement de Jésus, à l'époque des pharisiens, des écoles pharisiennes, qui étaient d'abord en fait des gens qui souhaitaient démocratiser la foi, en fait, faire en sorte que n'importe qui puisse prier, puisse lire la parole de Dieu, voilà, ça c'était les rôles des pharisiens. Et aujourd'hui, on sent qu'on revient à ça, puisque nous les laïcs, on reçoit beaucoup de grâce. Voilà. Moi je suis là devant vous, alors que je ne pensais pas qu'un jour je pourrais faire ça, vous voyez. Il y a des grâces qui sont données, et des grâces de prêtre, quoi. Quatrième rôle qu'on peut citer, la bénédiction. Il y a cette formidable parole de Nombre 6, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine, etc., etc. Donc nous on lit ça le 1er janvier. Donc c'est bien, ça illumine l'année, c'est la bénédiction. Donc cette parole, elle est constituée de trois versets de 15 mots. Dans l'Ancien Testament, les prêtres prononçaient cette bénédiction à main levée, matin et soir, après l'offrande, en haut de l'estrade. Donc on imagine le petit bonhomme là avec son aube qui fait la bénédiction de Nombre 6 au peuple, et les fidèles répondaient « Amen ». Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de discontinuité avec ce qu'il y a aujourd'hui à la messe. Que le Seigneur vous bénisse, et nous on répond « Amen ». Et il est en haut d'une estrade aussi, et il fait ça. On utilise aussi cette bénédiction pour les époux lors du mariage dans l'Ancien Testament. J'ai pas fait attention si c'était encore le cas dans le sacrement du mariage d'aujourd'hui. Enfin, je pense que oui, parce que c'est une messe. Donc. Cinquième rôle, le prêtre est l'homme du sanctuaire. Donc c'est celui qui entretient une relation à Dieu étroite par sa prière et par son contact avec les lois internes du peuple de Dieu, donc les lois d'Israël et les lois de l'Église pour nous maintenant. Donc c'est celui qui va bouquiner en lisant ce que dit le pape ou ce que disent les rabbins dans l'Ancienne Alliance. Voilà, il y a une unité forte avec le peuple de Dieu du moment donné. Il accueille les gens dans le sanctuaire, il préside aux liturgies, il est chargé des consécrations royales. Voilà, les rois, enfin, à l'époque royale en tout cas, c'était ça. C'est le prêtre qui bénissait. Voilà, l'homme du sanctuaire, donc c'est celui qui va tenir la boutique et qui va faire le lien avec ceux qui sont moins familiers, parce qu'ils poussent rarement la porte du sanctuaire. Donc forcément, des grenouilles de bénitiers, comme vous tous qui allez à l'adoration eucharistique au moins une fois ou deux par semaine, vous êtes un petit peu des prêtres, moi avec, parce que en fréquentant le sanctuaire, on en devient familier, et donc on a cette capacité de présenter le sanctuaire à d'autres, voilà, de leur expliquer que la messe, non, c'est pas triste. On bat des mains à la messe, vous savez pas, c'est, on ne voit pas passer le temps. Il y a encore des prêtres super sympas, super dynamiques, super jeunes. Voilà, l'homme du sanctuaire. Je trouve que c'est beau parce que il n'y a pas forcément besoin d'être enfermé jour et nuit dans le sanctuaire pour comprendre ce que ça veut dire. Rien que d'y aller régulièrement, c'est déjà être un homme ou une femme du sanctuaire. Sixième rôle du prêtre, les purifications. Purifier le peuple. Déjà, dans le livre du Lévitique, chapitre 12, 13, 14, on parle de purifier un certain nombre de cas. On parle de la lèpre principalement, et puis d'autres cas qui provoquent l'impureté. Voilà. Donc en fait, le prêtre, il va recevoir du Seigneur la capacité de savoir d'où viennent les lèpres. Voilà, pour nous, ça va être, notamment dans le sacrement de réconciliation, il va avoir des grâces particulières pour nous aider à dénicher le péché à cause duquel on fait tous les autres. Vous voyez, la lèpre, ça désigne une lèpre physique, mais c'est d'abord la lèpre de l'âme. Quoi, hein, c'est, voilà. Il y a des mystiques qui ont vu, ou des saints qui ont vu l'état de l'âme de quelqu'un qui, par exemple, qui est envieux et qui avait une âme avec des yeux énormes, très moches. Vous voyez, c'est parce que quand on voit l'état de notre âme, c'est l'interprétation spirituelle de ce qui est décrit dans l'Ancien Testament quand on parle des gens qui sont morts ou des gens qui sont lépreux ou des gens. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une déficience d'une partie de l'âme qui est comme une lèpre. Et Myriam qui critique le grand prêtre, un des prêtres, on va dire Moïse, eh bien, elle se retrouve lépreuse. Parce que c'est comme si son âme avait été contaminée par la médisance et la jalousie. Et ce qui lui arrive physiquement est en réalité la partie émergée de l'iceberg qui est que son âme est devenue lépreuse. Et un certain nombre de guérisons aujourd'hui sont obtenues parce que quand on discerne d'où vient le mal spirituel et qu'on s'attaque à ce mal spirituel-là, et bien en réalité, le Seigneur va régulièrement donner des grâces de guérir aussi le corps parce que on est corps, âme, esprit reliés et les purifications. Donc là, je les énumère, mais on y reviendra la prochaine fois en voyant en quoi nous, on peut avoir une action sur chacun de ces domaines, en fait. Mais je pense qu'il faut le méditer aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, en fait. Hein. Autre domaine dans lequel les prêtres exercent, c'est qu'ils sont des oracles, c'est-à-dire que les gens viennent les consulter pour connaître la vie de Dieu. Les prêtres avaient l'éphod, l'ourim et le toumim, je vous disais, qui étaient des objets de culte. Les prêtres présentaient l'un ou l'autre et c'était des choses qui permettaient d'expliciter aux personnes qui venaient les consulter ce que le Seigneur leur répondait dans un cas pratique. Voilà, pour nous, ça va être la parole de Dieu régulièrement qu'on va recevoir dans un groupe de prière et puis ça va être comme les ourim et les toumim et l'éphod qui vont. Voilà, Dieu va nous répondre et puis certains vont discerner. Ourim et Toumim, ça veut dire vérité et lumière. Toumim, vérité, Oumim, lumière. En hébreu, ça veut dire ça. Donc on peut identifier ça à, par exemple, la parole de Dieu, ça c'est la vérité, et celui qui interprète la parole de Dieu, la lumière. Je donne un exemple, mais il y en a plein. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, mais la tentation, ça va être, je te demande quelque chose, Seigneur, parce que moi, j'ai pas la foi, et tant que tu ne fais pas ça, je ne croirai pas. Ça, c'est tenter le Seigneur. Alors que demander, Seigneur, réponds-moi s'il te plaît là-dessus, parce que je suis perdu, parce que je voudrais croître en sainteté, parce que, etc., c'est consulter le Seigneur de la bonne manière, et ça, cette grâce d'être un oracle pour les autres, c'est une grâce liée au rôle de prêtre, en fait. Et au rôle de prêtre comme baptisé aussi. On voit moins ces objets à partir de David, parce qu'à partir de David, Dieu va susciter des prophètes qui vont aussi jouer ce rôle-là. Et on ne parle plus de ces objets particuliers qui servent pour consulter. Mais il n'est pas dit qu'ils ne le faisaient plus. Alors, autre rôle, ils sont juges. Voilà, ils ont un rôle judiciaire. Dans les cas d'adultère, par exemple, enfin, on vient les voir pour départager les combattants sur un sujet donné. Donc c'est bien pour ça que faut-il lapider la femme qui a commis l'adultère. Bon. C'était un cas typique de traitement par un prêtre qui se retrouvait face à... voilà. Autre rôle, gardien de l'arche. Ouais, parce qu'il y avait l'arche d'alliance avec la présence réelle dedans. Les prêtres, c'est même eux qui transportaient l'arche durant les guerres. Là aussi, hein, on voit, il y a deux manières de faire. Soit on le fait de manière superstitieuse en disant, bah, on va mettre l'arche au milieu de l'armée ennemie et puis le Seigneur va nous faire gagner la guerre. Et ça, c'est ce qu'ils font à un moment, les Hébreux, et ils se font piquer l'arche par les Philistins. Ils ont tellement de fléaux, les autres, là, qu'ils disent non, ils mettent ça sur... Il y a des bœufs qui ramènent l'arche tout seul, ils disent, on veut plus, c'est pas pour nous, quoi. L'arche, normalement, c'est le lieu de la présence réelle, un lieu de présence réelle qui doit être connecté à la prière, à la foi, voilà, on peut l'emmener avec nous si on entreprend un projet, parce que c'est pas des guerres aujourd'hui, c'est des projets, c'est en lien avec la prière, donc voilà. Donc je pense, je sais pas, au Saint-Sacrement, je pense à... Évidemment, on laisse pas le Saint-Sacrement tout seul dans la rue en disant c'est bon, il va convertir, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus de prostituées dans la rue, qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus de gens qui insultent les autres dans la rue. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on peut faire une procession ensemble avec le Saint-Sacrement, avec Jésus qui est au milieu de nous. Voilà, ça c'est possible. Autre rôle, les rôles subsidiaires. Et donc c'est là que c'est le mot lévite en fait qui a plusieurs significations. Lévite, ça veut dire soit descendant de la tribu de Lévi, soit ça veut dire ceux qui sont servants comme acolytes des prêtres, voyez. C'est-à-dire que parmi les lévites, en réalité, il y a ceux qui descendent d'Aaron, et eux, alors, ils vont être de sang royal, si vous voulez, enfin, de sang sacerdotal. Donc, c'est eux qui vont être les prêtres. Alors que, dans la tribu de Lévi, certains ne descendent pas d'Aaron, et eux, ils vont plutôt être les petites mains des prêtres. Ils vont prendre soin des parvis du temple, ils vont purifier les choses saintes, ils préparent les offrandes, les victimes, etc. Voilà, il est dit pas mal de choses dessus, notamment dans le premier livre des Chroniques, chapitre 24. Donc ça va être, pour nous, ça va être les diacres, ça va être nous-mêmes, on va être plutôt lévites que prêtres, finalement, si on regarde à deux fois. Enfin, on va être prêtres aussi, mais... Voilà, donc le mot lévite, soit descendant de Lévi, soit servant, acolyte du prêtre. Mais il faut savoir que les prêtres, avant tout, dans l'ancienne alliance, étaient de la tribu de Lévi, donc ils étaient à la fois lévites et prêtres. Donc pour conclure cette partie... Sur les rôles des prêtres, le prêtre, c'est l'homme qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Donc ça va être le peuple d'Israël qui va avoir ce rôle aussi de faire d'être la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les prêtres qui sont le lien entre l'Église et Dieu, même si nous, Dieu passe aussi directement par nous, enfin, nous touche directement, mais les prêtres vont condenser la grâce d'une manière particulière. Et le peuple de Dieu, donc l'Église, va jouer un rôle de prêtre pour les hommes de ce temps, et les femmes de ce temps. L'évêque va être le gardien de l'Église, hein, et les prêtres vont fonctionner normalement de manière collégiale avec l'évêque et avec les autres prêtres. Et un des signes de ça, c'est que quand l'évêque a imposé les mains pour le sacrement de l'ordre, les autres prêtres aussi imposent les mains, vous voyez, il y a une famille en fait qui vient et qui dit bienvenue chez nous et on te donne tous toute la puissance du Seigneur par nos mains, quoi. Il y a quelque chose de très beau. Et on retrouve, hein, c'est ce qui est dit dans les textes de l'Église, hein, le prêtre, il a le ministère de la parole, des sacrements et de l'unité pour guider le troupeau vers le Père. Voilà, on retient trois choses, parole, sacrement et unité. Mais dans les faits, il y a beaucoup plus de choses que ça, c'est ce que je vous ai énuméré tout à l'heure. Mais ça demande de beaucoup creuser dans la Bible, parce qu'il est dit beaucoup de choses sur les prêtres. Et dans les faits, je suis persuadé que si on lisait les textes officiels de l'Église sur les prêtres, on retrouverait ces différentes parties, en fait, exprimées différemment avec les mots d'aujourd'hui. Voilà. Ça, justement, je le ferai la prochaine fois. Alors, on va arriver à la partie 3. Pourquoi y a-t-il des prêtres ? On va essayer de répondre. Alors, on va donner des raisons de convenance, c'est-à-dire, n'étant pas capable de savoir exactement ce que Dieu pense, quelles sont ses voies, on peut toujours quand même trouver des raisons parce qu'on est capable de réfléchir, et parce que des choses nous sont données dans la Bible pour réfléchir et méditer sur ces mystères. Donc, moi j'ai vu trois choses sur le pourquoi des prêtres. Le refus de l'homme, c'est-à-dire le péché, va être quelque chose qui, Dieu va dire, bah, ok, vous refusez, je vais faire passer ma grâce d'une manière différente. Le refus. Le rachat, l'obligation de rachat, on va en parler. Et troisièmement, des prêtres, c'est lié au lévite. Je vais décliner un petit peu ce que c'est qu'un lévite. Et qu'il me semble qu'en étudiant ce que c'est qu'un lévite, en regardant un petit peu, ça donne des réponses sur pourquoi les prêtres et qu'est-ce qu'ils font là. Et finalement, le rôle de cette tribu va parler d'elle-même, en fait, sur l'itinéraire d'un prêtre, en fait, l'itinéraire de, ou d'un baptisé ou d'un juif qui va recevoir des grâces sacerdotales. Alors, tout d'abord, le refus. Pourquoi des prêtres ? Le refus. Il y a un péché croissant de l'homme. La tradition juive, il y a des traditions qui disent que la présence de Dieu, ils appellent ça la Shekhinah, s'est éloignée de plus en plus avec le péché d'Adam et Ève et avec le péché de Caïn et est montée au deuxième ciel, au troisième, au quatrième et en s'éloignant de plus en plus de l'homme. Et donc il a fallu que les patriarches, des patriarches saints comme Abraham, comme Jacob, comme Joseph, en fait, avec tous les sacrifices qu'ils ont eus, toutes les injustices qu'ils ont subies, les rabbins disent qu'ils ont fait descendre la présence réelle petit à petit sur les sphères de l'homme, alors qu'avant, cette présence s'était éloignée de l'humanité. Et que, dans un deuxième temps, donc, cette sainteté s'est concentrée sur certaines personnes. Voilà. On a un exemple de refus qui, à mon avis, est un passage charnière dans l'Ancien Testament. C'est Exode chapitre 4. Qui raconte le dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu qui dit, tu vas aller libérer mon peuple. Et Moïse qui objecte un certain nombre de choses. On en avait parlé déjà, on l'avait étudié un petit peu dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière objection. 4.13, Exode 4.13. Moïse dit, je t'en prie Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. Donc ça veut dire, en gros, envoie quelqu'un auprès de Pharaon, mais pas moi, quoi. Dégage. La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Alors il est dit, c'est la narine du Seigneur qui s'enflamme, qui se met à brûler. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai tout ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main, avec lui tu feras des signes. Donc on a, en gros tu ne veux pas être prêtre, si je traduis avec une certaine interprétation, admettons. Tu ne veux pas être prêtre, eh bien on va séparer vos rôles en deux. Toi tu vas être prophète, moi je vais te dire quels sont mes plans d'amour. Et le prêtre, celui qui va être l'exécuteur de ces plans d'amour, qui va faire descendre la grâce à plein tube, ça va être Aaron. Voilà. Et ce partage va faire en sorte que toi, tu ne puisses pas te glorifier, Moïse, de tes grâces prophétiques, parce que finalement, elles vont rester dans le secret presque, puisque ensuite tu vas les communiquer à Aaron, qui va être ton porte-parole. Et lui ne pourra pas se glorifier de capitaliser toute la grâce, parce qu'il aura dû passer par toi qui a les grâces prophétiques. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Donc là, il est dit, boum, tribu de Lévi, fléché pour être prêtre. Enfin, si je traduis, après c'est peut-être un peu brut, mais voilà, je sais qu'il a la parole facile lui, parce que Moïse avant avait objecté, moi je suis lourd des lèvres, vous voyez, je ne sais pas parler quoi. Et donc Dieu lui dit, lui il va parler. Et on retrouve ce rôle des prêtres d'enseigner. Lui il a la parole facile, donc c'est lui qui va être chargé de l'enseignement, de diffuser la loi, de diffuser la distinction entre la lumière et les ténèbres, entre les choses saintes et les choses profanes. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Oui, parce que c'est une nouvelle vocation pour lui d'être prêtre. En fait, il est bénéficiaire d'une grâce dont quelqu'un d'autre n'a pas voulu. Donc forcément, c'est réjouissant de se dire, nous-mêmes, en fait, nous sommes bénéficiaires des grâces dont certains prêtres n'ont pas voulu. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand on reçoit, quelqu'un a refusé ces grâces-là et ça nous revient dessus, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la grâce. C'est la pluie qui descend des cieux et qui ne remonte pas au ciel avant d'avoir accompli sa mission, avant d'avoir fait ce que la parole du Seigneur. Et avec ce bâton, prends-le en main, avec lui tu feras des prodiges, parce qu'en fait il s'adresse à Moïse, à Aaron, c'est tout un, en fait c'est les deux frères qui accomplissent chacun une partie de la mission. Voilà, le refus. Donc c'est une bifurcation, on retrouve ça avec les rois aussi, quand le Seigneur avait mis en place un fonctionnement, alors ça aussi je le dis avec mes mots, mais le fonctionnement des juges, où c'était un moment, le peuple qui est dans la détresse, qui crie vers le Seigneur, et le Seigneur suscite un juge, et cet homme reçoit des grâces royales, des grâces de commandement, et va guider le peuple, et puis sortir le peuple de sa servitude auprès des Madianites, auprès des Philistins, auprès d'Amalek, etc. Enfin, toutes les tribus là qui venaient chatouiller Israël, envoyées par Dieu, parce que Israël péchait. Et à un moment, les Israélites disent « On veut nous aussi un roi ». Et le Seigneur dit « Non, non, c'est pas mon plan, en fait, d'avoir un roi avec tout ce que ça comporte de mauvais. C'est-à-dire qu'il va prendre vos meilleures vignes, il va prendre les filles les plus belles pour son harem, dans vos familles. » Et en fait, Dieu accède à cette demande, mais au départ, c'est un acte de miséricorde, alors que le Seigneur, il disait « Le fonctionnement presque optimal, c'est d'avoir un roi qui est en même temps un prophète, un prêtre, et qui n'est pas investi de quelque chose avec tous les désagréments d'une grosse administration où il y a de la corruption qui peut venir, où il y a des, vous voyez, où on est un peu aveuglé par le luxe, etc. Voilà. Et on retrouve ça aussi pour les prêtres. Deuxième raison qu'on peut donner sur pourquoi des prêtres, parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, Dieu fixe une obligation de rachat des premiers-nés. C'est-à-dire qu'il y a une association entre les premiers-nés du peuple de Dieu, israélites, on va dire du peuple de Dieu, donc pour nous, c'est de recevoir le baptême, et les premiers-nés des Égyptiens qui vont être les sujets de l'ange exterminateur. C'est-à-dire que pour éviter que nos premiers-nés ne soient tués par l'ange exterminateur, donc pour nous, ça va être... ne s'éloigne de la vraie foi, eh bien, le Seigneur encourage à lui consacrer ses premiers-nés et qu'ils servent dans le sanctuaire. C'est ça qui était dit au chapitre 13, avec les modalités qui étaient précisées aussi dans le livre des Nombres. Le Seigneur dit, en Nombres 8, 17, il dit « Je me les suis consacrés à moi-même ». C'est-à-dire, on fait un échange, en fait. Si vous faites ça, eh bien, vos premiers-nés ne tomberont pas, ils seront inébranlables, vous voyez, alors que les premiers-nés des Égyptiens, qui étaient mis sur un piédestal par leurs parents, parce que, in fine, tout l'orgueil de quelqu'un d'athée va se concentrer dans ses enfants qu'il va mettre sur un piédestal. Parce que quand on est athée, enfin j'entends quand on se bat contre Dieu et qu'on ne souhaite pas entendre parler de Dieu, quand c'est un refus net, je ne parle pas des gens qui sont indécis, je parle plus des gens qui ont un refus net, eh bien, à ne pas vouloir de maître, nos enfants vont les diviniser, en fait, et c'est ce qui s'est passé avec les Égyptiens qui... Pharaon se prenait pour le soleil, pour Ra, pour Ré, et il divinisait son fils premier-né en disant « lui, il sera le soleil lui aussi quand moi je me coucherai ». Et donc il est mort à la grâce, et c'est ce que symbolisent les morts des premiers-nés, en fait. Et dans Israël, de consacrer les premiers-nés au Seigneur, c'était une manière de que notre famille reste inébranlable, avec la possibilité de racheter les premiers-nés, c'est-à-dire de demander qu'un lévite prenne la place de notre premier-né. Voilà. Et c'était là le rôle des lévites, c'est que c'était des gens qui venaient se substituer au fils premier-né, et qui venaient, c'est comme s'ils réparaient par leurs conditions d'être prêtres et de servir au sanctuaire toute leur vie. Et on parle du nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte, du nombre d'Hébreux qui sont sortis d'Égypte, et du nombre de Lévites qu'il y avait. Et on voit qu'il y a une petite différence, je crois, de quelques personnes. C'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais plus combien c'était, peut-être 12 000, ou je ne sais plus, le nombre c'était en milliers. Et on a le même nombre, plus 100 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont appliqué ce qui était dit dans le livre des Nombres, c'est-à-dire, Nombres chapitre 3, voilà combien il faut payer, finalement, si on ne peut pas mettre de lévite à la place du premier-né, vous voyez. Donc ils payaient une somme au temple en disant « Seigneur, on te paye ça pour symboliser notre... parce que c'est le rachat des premiers-nés, vous voyez. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait on va prier d'une manière particulière pour dire « Seigneur, si mon fils n'est pas prêtre, je vais te prier pour le salut de son âme, pour ne pas qu'il se laisse gagner par les séductions du monde. » Voilà, c'est ça un petit peu qui est symbolisé par Nombre 3 à partir du verset 44 et Exode 13 où il y a ce rachat des premiers-nés. Donc pourquoi les prêtres? C'est une miséricorde du Seigneur de dire « Puisque le peuple est faible, il n'a pas la force de consacrer chaque premier-né en disant comme Anne, la mère de Samuel, quand j'aurai un fils, il ira dans le temple. » Là, c'était une femme sainte, cette femme-là. Le peuple est trop faible pour faire ça. Et moi, je vais susciter, le Seigneur, des lévites, des prêtres, qui vont avoir ce rôle-là de réparer, de prendre la place, en fait, pour tous ces premiers-nés qui auraient dû être à mon service. Voilà. C'est assez renversant. Moi, j'ai découvert ça en préparant. Enfin, c'est-à-dire que je connaissais un petit peu les premiers nés, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était vraiment une demande faite par le Seigneur, ou de dire Seigneur, fais que mon premier né soit prêtre, ou de dire je vais racheter par ma prière, par mes jeûnes, par mes aumônes, par ma dîme pour mon premier né. Vous voyez, il y a une somme qui est donnée là dans la tradition juive, dans l'Ancien Testament. Troisième raison qu'on peut donner par rapport aux prêtres, donc c'est la condition des Lévites. On va retracer l'itinéraire de la tribu de Lévi. Alors, vous devez vous rappeler peut-être dans le livre de la Genèse que Jacob est allé prendre femme donc chez son futur beau-père, donc Laban, et il est amoureux de Rachel, et il lui a fait un sale coup, et puis il lui a donné Léa. Alors il y en avait une, c'était Léa, elle était comblée par des enfants, par la maternité, et l'autre, Rachel, a été comblée par l'amour de son époux. Et Léa, donc cette femme qui était fertile, mais qui était moins aimée par son mari, parce que en gros, il s'était retrouvé avec Léa sans le vouloir au départ. Le troisième enfant qu'elle a eu, elle l'a appelé Lévi. Et la raison pour laquelle elle l'a appelé Lévi, c'est « Cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » Ce qui est assez révoltant, parce qu'on se dit elle aurait dû se réjouir de son enfant. Et en fait, son centre de gravité, c'était « Mon mari ne m'aime pas, Seigneur, fais que mon mari m'aime. » Sa prière, c'était ça, quoi. Et « Cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » Et donc Lévi, il y a un lien avec ça. Je n'ai pas pensé à regarder ce que voulait dire Lévi, mais ça doit être peut-être s'attacher, ou ça doit être ça, je pense. Enfin, ou enfanter, c'est un des deux, je pense. Voilà, son troisième fils. Et lorsqu'ils furent adultes, Siméon et Lévi, donc le fils qui est né avant et puis Lévi, ils se sont unis pour massacrer tous les hommes de la ville de Sichem. Parce qu'il y a eu une embrouille, il y a eu des péchés, et puis ils se sont vengés. Et Jacob a maudit leur colère. C'est-à-dire que dans la bénédiction qu'il a fait aux 12 tribus, enfin aux 12 fils au départ, pour Siméon et Lévi, il a dit des choses, on va dire, qui sont comme c'est une manière de dire, vous n'êtes pas purs, voilà. On retrouve ce tison dans le feu, quoi, hein, avec des abyssales, hein, voilà. Le prêtre, c'est quelqu'un qui est issu aussi d'une famille, de la famille humaine, et d'une famille tout court, pécheresse. Voilà. Le prêtre n'est pas quelqu'un de saint au départ, il a été tiré du feu par le Seigneur, comme Siméon et Lévi, qui ont commis des péchés graves. Dans Exode 32, donc c'est l'épisode du veau d'or, hein, Exode 32, quand Moïse est au sommet du Sinaï, et c'est le peuple qui fait tomber le prêtre. C'est-à-dire que le peuple s'impatiente en disant Moïse tarde, on ne sait pas s'il va revenir, autant passer le temps de manière agréable, et puis il s'impatiente, voilà, c'est l'impatience et l'envie de s'amuser. Et c'est à cause de lui que le prêtre tombe. C'est-à-dire que il fait pression sur Aaron, et Aaron dit bon bah ok, moi qui sais comment on exerce le sacerdoce, donnez-moi vos bagues, vos bijoux, vos trucs en or, en argent, et on va faire un veau. Et ensuite, il est dit, au verset 25 de Exode 32, que c'est Aaron qui abandonne le peuple. Donc, premièrement, c'est la tiédeur du peuple qui fait tomber les Lévites, les prêtres. Deuxièmement, c'est la tiédeur des prêtres à être des mauvais pasteurs qui auraient dû consoler en disant « Vous êtes tombés, vous êtes ramassés, mais le Seigneur va vous pardonner ». Et ça précipite, je dirais, la disgrâce auprès du Seigneur. On retrouve ça avec les grands prêtres, en fait, qui dégagent Judas, qui vient s'excuser. Alors que ils auraient dû dire ben écoute, on reprend les pièces, c'est vrai, nous aussi on a été nuls, on demande pardon au Seigneur, on va offrir un sacrifice pour toi, et Jésus n'aurait pas été crucifié. Donc on a d'abord tiédeur du peuple qui entraîne les prêtres à pécher, et ensuite tiédeur des prêtres, enfin au moins dans Exode 32, tiédeur des prêtres qui précipite la chute du peuple parce qu'ils ne consolent pas et ils ne croient pas assez dans le pardon que le Seigneur peut donner grâce à eux. Alors, quand Moïse redescend et puis qu'il commence à s'énerver, donc le Seigneur lui a fait la grâce de lui dire avant, donc c'était une manière pour le Seigneur de dire à son prêtre, tu vas intercéder pour le peuple. Vous voyez, c'est quand le Seigneur dit quelque chose, je vais faire ça, jamais ils n'entreront dans mon repos. C'est dit ça dans le psaume qu'on chante le matin. C'est une manière de dire, maintenant que je vous ai dit ça, à vous de prier et vous allez voir, cette parole ne va pas s'accomplir. C'est comme ça que ça marche. Et donc il descend. Et quand Moïse dit « les partisans du Seigneur, à moi », eh bien, seuls les Lévites réagissent et ils prennent leurs épées et en fait, ils tuent dans le peuple. Alors, ça peut être un peu révoltant quand on lit. Ils tuent tous ceux qui étaient, on va dire, contaminés par le péché, en fait. Pour nous, ça veut dire ils vont faire le ménage dans les mauvaises choses à cause desquelles le peuple a péché, quoi. Ils vont, leur prendre leur smartphone, ils vont couper leur téléviseur, ils vont faire en sorte que ne se reproduisent plus les mauvaises situations. Voilà, et seuls les Lévites ont fait ça. Donc on voit que les Lévites sont des gens qui ont fait preuve d'un zèle pour le Seigneur à un moment. Ça, c'est le prêtre qui va dire, moi, je m'engage dans le sacrement de l'ordre, quoi. C'est quand même un engagement très fort. C'est comme si, en fait, la voix du Seigneur qui leur était adressée dans l'appel, c'est « les partisans du Seigneur, à moi !» Ou dit autrement, « qui veut racheter mon Église ? Qui veut sanctifier mon Église ?» Et que les Lévites, ou les prêtres aujourd'hui, répondent à cet appel, et donc se retrouvent comme la prunelle de l'œil du Seigneur, parce que ils ont touché le cœur du Seigneur en disant « oui ». En Nombre 25, versets 7 à 14, Pinéas, qui est un Lévite, fils d'Éléazar, fait preuve aussi de zèle, puisqu'il transperce un Israélite lors de l'épisode du bal de Péor. Vous savez, c'est ce roi Balak qui veut s'attaquer à Israël, et il voit que... Enfin, il compte sur son prophète, parce que son prophète, il est... Enfin, c'est un gars qui est aussi prêtre, Balaam. Il est prêtre et prophète, mais païen. Et il dit, moi, je connais la puissance d'un prêtre et d'un prophète, et il suffit que j'envoie mon prêtre, et je vais faire comme d'habitude. Il va maudire, et il va y avoir des démons qui vont décimer l'armée ennemie. Et Balaam, il arrive là, et il est dans l'incapacité de maudire Israël, parce que c'est un prêtre et un prophète juste. Il a cette capacité à dire, ben non, là, je vois bien que je peux pas. Le Seigneur m'en empêche. Et il dit, que tes tentes sont belles, Israël. Il donne aussi la prophétie sur l'étoile qui va se lever. Hein. Voilà, peut-être que d'ailleurs les familles des mages ont médité sur cette prophétie pour pouvoir être prêts à... Vous voyez, il y a des traditions qui disent ça, qui se passaient de père en fils, la prophétie pour guetter l'étoile. Quoi. C'est pas juste, ils ont une idée un jour, tiens, une étoile, on y va. C'était une tradition qu'ils avaient et il y en a des traces dans cette... Enfin, moi, je pense ça, en tout cas, certains le pensent. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et donc, je reviens à Balaam. Donc, il a échoué dans la mission que lui confiait Balak. Et Balaam est en disgrâce dans la tradition d'Israël. C'est-à-dire que nous, quand on lit, on se dit « Oh là là, c'est un saint homme, ce gars-là. Il était juste, etc. » Et en fait, la tradition juive dit que c'était quelqu'un qui était malin et qui a mal utilisé son intelligence. Parce que, et d'ailleurs, c'est dit dans la Bible. Il a dit « Bon, bah, puisque je n'arrive pas à les faire chuter par la force, je vais les faire chuter par la séduction. » Et donc, il a envoyé les filles les plus jolies, parfumées, maquillées, mascara, mini-jupe et tout, auprès du peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés, en fait. En introduisant quelque chose, en plus, en utilisant la beauté des femmes, qui est une arme terrible entre les mains du démon, alors que c'est une arme terrible entre les mains du Seigneur pour sanctifier les hommes et vice-versa. Enfin, l'homme et la femme sont des moyens de se sanctifier mutuellement, même quand on n'est pas marié, en regardant quelqu'un du sexe opposé. Quand on a un regard dans le Seigneur, on se sanctifie mutuellement. Balaam, il avait compris ça, en fait. Et il y a quelqu'un qui s'est levé, c'était un Lévite, c'était Pinéas, et il a transpercé ceux qui ont succombé à ça, quoi, en disant « je vois que c'est quelque chose d'étranger ». Et il a joué son rôle de Lévite, de dire « la loi, c'est de suivre le Seigneur et de ne pas introduire des éléments étrangers dans notre fonctionnement de tous les jours, quoi, parce que ça va nous décimer ». Et effectivement, le Seigneur a envoyé des serpents à la morsure brûlante pour rappeler le peuple à l'ordre en disant « puisque vous n'écoutez pas les prêtres et les prophètes, et bien, vous allez avoir des problèmes de santé et vous allez devoir passer par une intercession d'un serpent des reins mis en place par un prêtre d'ailleurs. » Voilà, donc les fils de Lévi sont consacrés à l'Éternel, qui les a pris à son service, ils ont porté l'Arche de l'Alliance, ils offrent des sacrifices, ils offrent le parfum d'adoration. Et puis pour les prêtres d'aujourd'hui, c'est encore ça. Hein. Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, donc tous les baptisés, vous-même tous les baptisés, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus, le Messie. » Par Jésus-Christ, voilà, nous on dirait. Donc, on devient nous-mêmes, le peuple des baptisés, un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles. C'est-à-dire, je t'offre les faiblesses des gens qui m'entourent, je t'offre, voilà, c'est ça que dit Saint-Pierre, quoi. Vous êtes prêtre à la suite de la tribu de Lévi, parce que vous avez un zèle comme les Lévites. Voilà, donc c'était la troisième raison pourquoi des prêtres, parce que dans la tribu de Lévi, il y a à la fois cette faiblesse, on est des pécheurs, et à la fois à un moment, des traits, comme si l'Esprit Saint passait, et puis on avait un zèle pour le Seigneur, pour défendre le Seigneur, pour prendre la défense du Seigneur. Et puis, ils ont une promesse en nombre 18-20, qui est très belle. Nombre 18-20. « Tu n'auras pas de patrimoine dans leur pays, tu n'auras pas ta part au milieu d'eux. » Et c'est Dieu qui s'adresse aux Lévites en disant « Tu n'auras pas de territoire, contrairement aux autres tribus, où vous partagez la carte d'Israël. » Mais toi, non, tu n'auras pas de territoire, ou très peu, ça va être très limité. C'est moi, le Seigneur, l'Éternel, qui serai ta part et ton patrimoine au milieu des fils d'Israël. C'est comme s'il y avait eu un découpage, et qu'il y a quelque chose qui avait été donné en plénitude aux Lévites, aux prêtres, c'est le Seigneur, avec toute sa puissance, quoi. Voilà. Et en méditant ça, normalement, un prêtre, ça doit le maintenir aussi en se disant, moi, mon trésor, c'est le Seigneur, quoi. Je n'ai rien d'autre que le Seigneur. Voilà. Et ça peut être une raison de méditer aussi, hein. Et c'est pour ça qu'il est dit, il est demandé devant un grand ou devant un ancien, abaisse ton front. Quoi. C'est Siracide 4-7. C'est Ben Sirac le Sage 4-7. Devant un ancien, un prêtre. C'est-à-dire, on doit réfléchir à deux fois donc avant de critiquer un prêtre. Et en sa présence, réfléchir, est-ce que ce que je dis est respectueux pour lui, voilà, parce qu'il y a une sainteté particulière en lui. C'est comme s'il y avait le Seigneur en lui. C'est comme s'il y avait le Seigneur devant moi. En la personne de ce prêtre. Et ça, c'est un mystère qui est très grand. Voilà. Pourquoi les prêtres ? Les autels. La partie sur qu'est-ce qu'un autel et comment ça fonctionne un autel. Alors, dans l'Ancien Testament, l'autel, c'est une table sacrée où on place les offrandes pour la divinité. Voilà, une table, et puis on met des fruits, on met des lapins, alors non, pas des lapins, je crois que les lapins, il n'y a pas le droit. On met des colombes, on met, voilà. Il y a des animaux, c'est pas autorisé. Ouais, ils sont pas purs, voilà, faut bien... Tiens, ben, j'essaierai de vous lire la prochaine fois, parce que Thomas d'Aquin, il a fait un commentaire sur tous les éléments de l'Ancienne Alliance, et en quoi il y a une correspondance avec nous aujourd'hui. Il explique ce que ça veut dire de ruminer, ce que désigne l'aube, ce que désigne le sacrifice, tout ça. Enfin, et je trouve que c'est intéressant parce que c'était le XIIIe siècle et c'est hyper actuel en fait parce qu'il donne le sens spirituel de chacun des trucs qui nous révoltent parfois parce que il verse du sang partout, il tue des animaux, il les brûle. Il y a la femme qui est considérée comme impure. Il y a un moment où on se dit bon bah c'est pas pour moi alors qu'en fait non, c'est des symboles spirituels qui montrent des éléments liés à notre sacerdoce aussi. Voilà, et donc tout ce qui fait le prêtre à l'autel, c'est toujours dans un esprit d'action de grâce et de supplication. De supplication dans le sens Seigneur pardon, de supplication, expiation. Voilà, le passage où on le voit notamment, c'est dans Zacharie. En ce temps-là, je ferai naître un esprit de grâce et de supplication, et ils lèveront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Vous voyez, c'est une préfiguration de Jésus en croix, et d'un moment très fort, où il y a à la fois le « Merci Seigneur » et à la fois « Pardon Seigneur ». Vous voyez, le « Merci Seigneur » parce que c'est maintenant la consécration où on revit la croix qui est dressée devant nous. Et « Pardon Seigneur » parce que moi aussi, mes péchés ont alourdi ta croix et ont alourdi les marques des clous. Voilà. Dans Exode 20, juste après le décalogue, Exode 20-24, le Seigneur lui demande à Moïse de lui ériger un autel de terre, et non un autel de pierre, qui serait profané par le ciseau des tailleurs. C'est-à-dire, pour bâtir un autel, il ne faut pas utiliser de pic, enfin pour tailler les pierres, je ne sais pas comment dire, Un ciseau. Ouais. Alors, dans la tradition juive, la terre ne peut pas devenir rituellement impure. La terre, c'est Dieu qui a créé la terre et a donné un esprit à la terre, qui est un esprit inférieur, inférieur au monde angélique, etc. Les esprits de la nature existent, c'est dit dans la Bible. Hein, mais c'est des esprits, je dirais, qui n'ont pas de, dont la seule intelligence, c'est de faire subsister les plantes et de parfois de nous faire penser à arroser une plante ou de mettre les arbres en lien entre eux, etc. Enfin, d'organiser la nature. Donc ça ne peut pas être impur rituellement parce que c'est le Seigneur qui vit dans toutes ces éléments de la nature. Hein, les animistes et puis les bouddhistes d'ailleurs apprennent à reconnaître ces esprits-là. Et puis il y a une demande de simplicité aussi dans le fait de prendre un bloc de pierre si on le fait en pierre. Et puis pas de ciseaux parce que l'homme ne doit pas toucher à ce qui est sacré. Voilà, le Seigneur a fait des grosses pierres, et ben on prend la pierre telle qu'elle. Le Seigneur l'a voulu comme ça. Voilà, c'est une manière de dire quand vous bâtissez un autel, faites simple en reprenant au maximum ce que le Seigneur a voulu. Voilà, ce que le Seigneur a fait. Et dans le Talmud, donc c'est dans les écrits juifs, l'autel est créé pour prolonger la vie de l'homme, tandis que le fer, c'est-à-dire l'épée, a été créé pour l'abréger. Voilà, l'autel, ça prolonge la vie de l'homme. C'est quelque chose que le Seigneur va donner, va créer, et qu'on va récupérer, on va lui offrir. Alors que les ciseaux, c'est l'arme du démon, en fait, qui va chercher à diviser, en fait. Voilà. Il est dit que l'autel ne doit pas comporter d'escalier, pour ne pas dévoiler la nudité du prêtre qui monte, et puis on voit ses... Voilà, donc après c'est assez logique. Il doit y avoir une interprétation spirituelle. Je ne l'ai pas trouvée pour l'instant, mais j'essaierai de peut-être trouver la prochaine fois. L'autel qui est dans le temple, alors on mettait des cornes autour, qui était la partie la plus sacrée de l'autel. On voit une complexification de la manière de faire les autels. C'était donc la partie la plus sacrée, qui était touchée par les criminels, en fait, qui les immunisaient contre leurs vengeurs. Les gens qui réclamaient l'asile parce qu'ils avaient péché, ben, ils touchaient l'autel. Voilà, là aussi, il doit y avoir un sens par rapport à ça, au fait que le Seigneur se laisse toucher dans les choses saintes par le pécheur repenti, quoi, par le publicain qui se tape la poitrine, quoi, qui vient dans le temple et qui dit « Seigneur, je vais toucher ta miséricorde comme si je mettais mes mains sur les cornes. » Donc je vais balayer quelques personnes qui sont évoquées pour avoir construit des autels. Alors on a d'abord Noé, en Genèse 8:20. Il vient de sortir de l'arche, le Seigneur vient de lui demander de sortir de l'arche et de faire sortir tous les animaux pour qu'ils soient féconds et prolifiques. Que fait-il ? Il commence par bâtir un autel. Avant même de dire « Allez, je vais construire une maison parce que là, le soir va arriver. » Ou « Je vais me faire griller un petit pigeon ou semer parce qu'il faut que ça commence à pousser tout de suite. » Non, il bâtit un autel. Deuxième exemple, Genèse 12:7. Abraham, il s'appelait encore Abraham à l'époque, pas encore Abraham. Il est à Sichem. Et suite à l'apparition du Seigneur qui lui a promis de donner le pays de Canaan à sa descendance, voilà, je te donnerai ce pays en héritage ainsi qu'à ta descendance. Eh bien, dès que le Seigneur lui a fait cette promesse, je rendrai ta descendance en possession de ce pays, il commence par bâtir un autel. Voilà, le Seigneur vient de lui donner quelque chose, cette promesse-là, et Sichem, ça veut dire épaule. Donc c'est, si on reprend les épaules, l'épaule c'est ce qu'on porte avec les épaules, vous voyez, c'est comme si le Seigneur lui avait dit, tu vas porter la responsabilité de ce pays, en fait, ta descendance va porter. Ensuite on a en 13:8, toujours Abraham, à Hébron, suite à la parole du Seigneur qui lui promet de lui donner le pays et de multiplier sa descendance. Donc là c'est un petit peu la même parole, mais en disant, en plus, tu vas avoir plein de descendants, nombreux, comme les étoiles du ciel. Et Hébron, ça veut dire union. Donc, le Seigneur lui fait une promesse d'union, et il fait quoi ? Il commence par bâtir un autel. Autre exemple, en 22:9, là maintenant il s'appelle Abraham, on lui a rajouté un « hé » qui est une lettre hébreu, qui est la lettre du souffle, la lettre de l'Esprit Saint en fait. Abraham, il est donc au lieu que le Seigneur lui a indiqué, afin de sacrifier son fils, et donc après avoir mis les bûches, eh bien, il bâtit un autel, là, pour sacrifier son fils. Donc là, Dieu lui a dit, je t'envoie une épreuve, et je t'envoie une demande incompréhensible. En plus, dans un lieu, je te dis même pas lequel, je t'indiquerai un moment. Voilà, ça a dû être difficile. Et il fait quoi ? Il bâtit un autel, c'est ce qu'il sait faire, Abraham. Et finalement, il finit par y sacrifier un bélier. Vous voyez, donc il y a le Seigneur, à chaque fois, il y a une demande du Seigneur, il y a un contact avec le Seigneur très fort. Et la première chose qu'on fait, je bâtis un autel. En 26-25, c'est Isaac à Beersheba, après que le Seigneur lui soit apparu pour lui dire « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, je suis avec toi. » Donc il se fait reconnaître, voilà, c'est le puits du serment, Beersheba, ou le puits des sept. Donc on peut penser aux sept dons de l'Esprit Saint peut-être, ou le puits de l'Alliance. Et effectivement, « Je suis le Dieu d'Abraham, ne crains pas, je suis avec toi, je te bénirai, j'endrai. » Donc c'est une promesse d'être toujours avec lui, voilà, et il bâtit un autel. En 33-20, c'est Jacob à Sichem, il revient au lieu de l'épaule, et il a acquis une parcelle de champ. Et la première chose qu'il fait dans ce champ-là, il bâtit un autel. Et il le nomme El, Dieu d'Israël. En 35-20, toujours, Dieu dit à Jacob, monte à Bethel, arrête-toi là, élève-y un autel pour le Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir sa famille. Et il dit, il faut bâtir un autel pour remercier le Seigneur. Donc Dieu lui a parlé, et c'est une occasion de témoignage. Il dit, on va bâtir un autel, on va faire un haut lieu. Dans Genèse 35. Et que font-ils? Ils se débarrassent tous de leurs idoles et cet autel vient purifier le culte dans leur famille, en fait, leur relation à Dieu. Et en 35-7, ils bâtissent cet autel-là. Voilà, donc encore une parole du Seigneur. Que fais-je quand j'ai cette parole? Je commence par bâtir un autel, par construire quelque chose, par faire quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. En Exode 17-15, c'est Moïse à Réphidim. Réphidim, le lieu du repos. Réphidim, il vient d'avoir une victoire éclatante contre Amalek, donc la tribu du mal par excellence. Exode 17-15. Et que fait-il une fois qu'il a cette victoire, avant d'aller se reposer, d'aller ripailler, d'aller passer pour une star auprès de son peuple, etc. Il bâtit un autel. Et cet autel s'appelle « Le Seigneur est mon étendard ». C'est une manière de... Vous voyez, donc là, on voit, il commence par dire « Ce n'est pas moi qui ai acquis la victoire, c'est le Seigneur, et je lui bâtis un autel pour bien vous montrer que c'est pas moi ». C'est lui. En Exode 24,4, excusez-moi, je vais vite, mais Moïse bâtit un autel avec 12 stèles au bas de la montagne, juste avant les instructions du Seigneur au sujet de l'organisation du culte. Donc là, l'autel est bâti aussi pour servir de signe, pour partager les rôles du sacerdoce, et les rôles prophétiques, et les rôles, tous les ministères, en fait. Voilà, on retrouve la même chose en Josué 8.30, sur le mont Ébal. Ébal, c'est Pierre, montagne nue, Josué 8.30. Il vient de conquérir Aï, qui est une ville, c'est un mont, ça veut dire monceau de ruines, Aï. Et il vient de conquérir, et il commence par bâtir un autel aussi. Voilà, donc à chaque fois, donc que signifierait l'autel? Donc peut-être une offrande à Dieu de notre temps, de nos prémices. C'est-à-dire, on commence par lui offrir les premières choses qui nous viennent à l'esprit. La première chose qui nous vient quand il y a une grâce qui nous est donnée ou qu'on a l'impression que le Seigneur s'est adressé à nous, on lui rend ça en bâtissant un autel, c'est-à-dire en lui donnant peut-être notre simplicité, notre esprit d'enfance, en disant « Seigneur, je te donne cette joie » ou « Je vais reconnaître devant les autres que cette joie me vient du Seigneur, ce n'est pas moi qui suis la source de ma propre joie. » Et à chaque fois, c'est dans le lieu que Dieu choisit et non dans les hauts lieux, c'est-à-dire les hauts lieux, c'était les endroits où les autres... peuple érigeait des autels, parce qu'en fait, le démon avait plus de puissance quand on faisait un autel en haut d'une montagne, sous un arbre vert, sous un sycomore par exemple. Pourquoi? Parce que tout le monde le voyait, forcément. Un lieu que tout le monde voit, il devient célèbre, et donc on est capable de faire des sortilèges plus puissants. Et le Seigneur lui dit, non, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est pas vos raisonnements humains, c'est la lutte entre le pouvoir... Et la simplicité que demande le Seigneur dans l'Évangile, vous savez, les grands de ce monde font sortir leur puissance, mais dans le royaume des cieux, mais entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Voilà. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous adresse quelque chose, une grâce, quand le Seigneur nous adresse une grâce, eh bien, on commence par dire, Seigneur, tu viens de m'adresser une grâce là, eh bien, je te rends cette grâce là. Voilà, j'ai eu un signe d'une joie qui m'a été donnée, ou un frère qui m'a dit telle chose, et bien, est-ce que le Seigneur ne me demande pas de lui rendre quelque chose, ou de lui faire quelque chose qui va lui faire plaisir, en fait? C'est ça, bâtir un autel. Donc, c'est le Seigneur qui choisit le moment de bâtir un autel, après qu'il nous ait adressé la parole, et c'est le Seigneur qui choisit le lieu, c'est-à-dire qu'il va nous faire comprendre à quel endroit on va faire quelque chose pour lui, qui va manifester que c'est lui qui est le premier servi, et que cette chose-là, ça soit quelque chose de très simple qu'on lui donne, qu'on lui offre. Donc ça peut être Seigneur, j'ai reçu que ça fait un an que je prie pour qu'on déménage, et ben je vais te consacrer ma famille à la Trinité si tu me donnes une maison. Voilà. Et puis à un moment, je sens que le Seigneur, il me dit, va, je suis avec toi. Je sens là, c'est comme s'il m'avait répondu dans ma prière que, en fait, la maison, elle va arriver dans pas longtemps, quoi. Et ben, on va se consacrer à la Trinité. Et en fait, deux semaines après, boum, il y a une maison qui nous tombe dessus. Voilà. C'est, vous voyez, donc j'ai bâti un hôtel et c'est comme un roc pour ma famille parce que maintenant que, enfin, je donne un exemple, c'est pas le cas pour nous, mais, enfin, si pour nous, ça a été le cas avec la voiture. On a promis qu'on consacrerait notre maison au cœur de Saint-Joseph et de Marie. Elle était déjà consacrée au cœur de Jésus. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai dit bon bah voilà, on va avancer. Le Seigneur, il va être avec nous. Et deux semaines après, on avait une voiture. Voilà, le Seigneur, Saint-Joseph nous a trouvé une voiture neuve en plus. Voilà, alors qu'on n'avait pas un sou. On a eu, vous voyez. Et en relisant le truc, je me dis bah c'était un hôtel qu'on lui a bâti quoi. C'est-à-dire qu'on a dit on va mettre en place quelque chose avec la grâce du Seigneur. Parce qu'on sent que c'est là qu'il nous appelle à faire ça, et ça va être quelque chose qui va nous protéger, sur lequel on va pouvoir fonder des grâces familiales. Voilà, le prêtre, en fait, on est prêtre parce qu'on interprète les petites grâces que le Seigneur nous donne directement ou à travers nos frères, et on va faire des petites choses pour lui, pour consacrer des parties de nous-mêmes, en fait. Voilà. Le service qu'un baptisé effectue dans les profondeurs de son âme reflète en tout point le service des temples et du sanctuaire. Parce que dans le sanctuaire, il y avait des nombreux ustensiles, de différentes sortes, chacun avec sa fonction propre. Il y avait l'encensoir, l'éphod, la mitre, enfin tout un tas de choses. Et donc, tous ces objets représentent dans l'âme les nombreuses facettes et capacités. Donc ça va être l'intellect, l'émotion, la volonté, le plaisir. Voilà, toutes ces choses-là, c'est comme des petits ustensiles dans notre sanctuaire propre, dans le temple qu'on est. Et on va pouvoir officier dans notre sanctuaire devant le Seigneur en disant « Je t'offre sur l'autel de mon cœur ces petits sacrifices que je fais pour toi, cette contrariété. » Voilà, c'est ça l'autel en fait que ça symbolise. Et c'est en ça qu'on est prêtre nous. Alors, il se peut qu'au cours du service du divin surviennent quelques motivations étrangères, un désir profane, peut-être contraire à la volonté divine, parce qu'on va se dire « Bon allez, je vais abréger ma prière par exemple. » Où on va se dire, je prie avec mon portable, tiens, j'ai reçu un SMS. Ah. Vous voyez, ça c'est un truc étranger. Allez, c'est typique. Ça équivaut au cas où un des ustensiles du sanctuaire deviendrait impur, en fait. Donc ça veut dire que nos pensées deviennent impures, et on doit chercher le moyen de retirer cette impureté pour que les ustensiles, donc en nous-mêmes, redeviennent dignes de participer au service du sanctuaire intérieur. Parce que dans ce sanctuaire, aucune impureté n'est admise. C'est la colère de Jésus qui dit, mais dégagez-vous tous les trucs, là, les marchands de colombes, les changeurs. Il est en colère parce que pour lui, ça n'a pas sa place, quoi. L'amour de sa maison fait son tourment. C'est le feu de l'amour de Dieu qui consume sur l'autel de notre cœur tous nos désirs égoïstes. Et les ustensiles du sanctuaire intérieur sont, comme nom l'indique, des récipients. Et quand ils sont purs et que leur service est pur, ils sont des réceptacles des bénédictions divines, autant matériel que spirituel, et on a ça en Lévitique 26, 3, 4. Alors, on parle de ça. Pendant longtemps, je me suis dit, mais on ne communie pas au sang, et je trouvais que c'était un tort. Et finalement, je me suis dit, bon, il faut être simple, on reçoit avec ce que l'Église nous donne, le corps du Christ. Lévitique 26, 3 à 4. On reçoit ce que le Christ nous donne, et on reçoit aussi le sang par l'intermédiaire des prêtres, parce qu'en fait, le sang, il coule de manière mystique sur tout le monde. Et si nous, on est un réceptacle où il n'y a pas d'impureté dedans, la coupe d'impureté dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est comme si on se remplissait à ras-bord du sang du Christ. Le corps, il nous aura fortifiés. Et si on ferme les yeux, on est capable de raviver les grâces de l'Eucharistie. C'est comme si, à un moment dans ma semaine, je ferme les yeux et puis j'imagine que je vais ouvrir cette boîte où il y a un parfum enivrant et je vais dire « Seigneur, je vais me mettre dans la même attitude que le moment où j'étais à genoux et je venais te communier et je vais raviver les grâces de la communion et ça va être comme si je communiais une deuxième fois. » Vous voyez, c'est comme ça qu'on bénéficie à nouveau du sacrement de l'Eucharistie. On ne le fait pas assez, ça. C'est pour ça qu'on est tiède, en fait, que le fil à linge entre deux poteaux, il touche le sol. En fait, c'est parce qu'il faut mettre d'autres poteaux entre les deux en disant « Seigneur, allez, maintenant je vais communier à nouveau parce que t'es encore là et je vais bénéficier de ça. » Et le sang du Christ, ça va être « Seigneur, je suis un, un calice et je vais être rempli du sang du Christ parce que de manière mystique, le sang aura été répandu sur l'assemblée pendant la messe. Et ensuite, ce sang, je viens le répandre et purifier tout mon entourage, en fait. Partout où je passe, je vais exercer mon rôle de prêtre en sanctifiant tout ce qui m'entoure. Si vous marchez selon mes décrets, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses produits et l'arbre de la campagne ses fruits. Chaque autel va consacrer une partie de nous-mêmes. Voilà. Chaque autel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on comprend le projet du Seigneur sur nous, parce qu'il nous a parlé, on a reçu quelque chose, ça, faut que je le fasse. Il faut que je consacre ça, que je fasse bénir ma voiture. Ça, c'est comme bâtir un hôtel, finalement. Voilà. Et à chaque fois que je vais monter dans ma voiture, je vais être moins tenté de faire des choses qui ne sont pas en lien avec la vie chrétienne, quoi. D'avoir envie de défoncer la voiture de devant en klaxonnant comme un bourrin parce que ça m'énerve que la dame elle cherche une place et qu'elle mette 3 heures à se garer. Et voilà, je bâtis un hôtel en consacrant ma voiture parce que je le reçois dans la prière. T'as qu'à faire bénir ta voiture, tu verras, tu seras moins tenté de faire ça. Voilà, et puis de cultiver le silence. Donc j'ai puisé un certain nombre de ces éléments dans les traditions juives aussi. Hein. Les juifs sont très forts là-dessus. Et moi, je donne un petit peu le déploiement avec le sang du Christ. Parce que ce qui leur manque aujourd'hui, c'est ça. Je me dis, mais le jour où ils sauront ça, ils seront bluffés, quoi. On a de la chance, nous. Voilà, et certains écrits juifs expliquent qu'il y a deux autels. En fait, il y a l'autel pour offrir les sacrifices, les animaux, tout ça. Et l'autel pour offrir l'encens. C'est deux niveaux de la révélation divine. Il y a l'autel intérieur, où on offre l'encens. C'est la lumière qui transcende la création. C'est l'autel de notre foi. C'est les joies que le Seigneur nous donne. C'est l'amour qu'on reçoit de nos frères. Voilà. C'est les compréhensions intellectuelles aussi. Les grâces de la prière. Alors que l'autel extérieur, où on met les animaux, ça manifeste un niveau plus manifeste, en fait. Les grâces par des choses que j'entends, par la beauté de la création. Vous voyez, finalement, les autels symbolisent différents niveaux de notre être, en fonction aussi de notre corps, et puis notre âme et notre esprit. Voilà. C'est la divinité qui vient habiter la création. Voilà, l'autel intérieur, c'est comme le Saint des Saints. Alors, comment on utilise un autel ? L'autel des holocaustes, où on sacrifiait les animaux. Il y avait un autel où on prenait un repas, en fait, un repas sacré. On offrait ce qu'on mangeait au Seigneur. Et donc, c'est vrai que dans le foyer juif, la table était un substitut de l'autel. Et on ne pense pas suffisamment que la table de chez nous est un autel. Et que quand on dit de bénédicité, on fait descendre la consécration sur les échanges, sur la nourriture qu'on va manger. Et ensuite, pendant le repas, pour pouvoir garder cette bénédiction, il y a à la fois à faire attention, évidemment, aux échanges et à demander au Seigneur de venir visiter nos échanges. Et deuxièmement, de visiter ce qu'on mange en disant « Merci Seigneur pour chaque chose que je mange. » C'est comme si je te donnais à manger à toi pendant que je mange. C'est une manière de jouer notre rôle de prêtre à table, en fait.
En plus, si je peux me permettre, ça marche même si on fait ça avec quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout au courant.
Oui.
Et ça pacifie les choses.
Tout à fait. C'est ahurissant. Ouais, parce que c'est un vrai hôtel, en fait. On a après l'autel qui est le lit conjugal. Alors là, je vais lire quelque chose que j'ai trouvé, quelqu'un qui commente Jean-Paul II, la théologie du corps. J'en reparlerai la prochaine fois de manière plus détaillée, mais je trouve que c'est beau. C'est Jacques Villeminot qui commente ça, c'est un diacre. Il explique en quoi l'union des corps est un rappel de la scène. La chambre conjugale est un sanctuaire, le lit conjugal est un autel. L'époux peut dire à son épouse, « Voici mon corps qui est pour toi », tout comme Jésus a dit, « Prenez et mangez, et prenez-en tous, ceci est mon corps ». La communion eucharistique est l'union charnelle, sensuelle du Christ et de son épouse l'Église. Si les époux sont sacrement du Christ et de l'Église, cela veut dire que le don des corps, qui est l'expression la plus parfaite et aboutie du don total des personnes, participe à l'acte eucharistique. C'est pour ça que Jean-Paul II parle du lien entre l'Eucharistie, la croix et l'union d'un homme et d'une femme. C'est pour cela que la chambre conjugale est un sanctuaire, que le lit conjugal est un autel. On comprend alors toute la beauté et l'exigence de sainteté qui en découle. Pas de profanation des corps dans la vie sexuelle. Voilà. Dans le Lévitique, c'est dit, tu n'offriras pas une bête boiteuse, voilà. Donc moi, évidemment, je vais pas aller voir une autre femme et puis après m'unir à ma femme. C'est, sinon, c'est, mon âme est boiteuse, quoi, voilà. Et si j'ai beaucoup trop mangé, ben c'est comme si j'étais une brebis mal fichue qu'un prêtre avait acheté pas cher pour l'offrir, enfin ou quelqu'un pour offrir ça en sacrifice en le donnant au prêtre, voilà. Voilà. Pour conclure sur cette première partie. Moi, je trouve qu'on peut être quand même émerveillé par toutes les choses qui sont dites dans la Bible sur les prêtres et dans les trésors de l'Église aussi, parce que les textes du magistère recèlent aussi beaucoup de choses qui vont prolonger toute cette réflexion-là. Quand on comprend finalement ce rôle de prêtre, on acquiert de la part du Christ cette capacité peut-être de transformer le monde et d'être comme le bout des branches des arbres, en fait, les prêtres, le pape, ça va être le tronc, les prêtres, les évêques vont être les branches principales, et nous, on va être les extrémités, et on va rayonner auprès de personnes, et notre capacité de rayonnement, à mon avis, est liée à notre capacité à être des bons prêtres pour les autres, à bénir les autres, et à exercer tous les éléments qu'exerce un prêtre, dont on a parlé, et qu'il faut continuer peut-être à creuser, pour les autres, c'est-à-dire... être celui qui transporte l'arche, être celui qui purifie, être l'homme du sanctuaire, être celui qui bénit, être celui parfois qui a le rôle de serviteur, le rôle subsidiaire, qui être celui qui offre les sacrifices matin et soir, qui prend soin de la lumière, qui enseigne, vous voyez, toutes ces choses-là, on les retrouve, ça fait partie de notre rôle aussi, et ce rôle n'est pas moins grand que le prêtre qui va condenser ce rôle-là, je dirais, parce que c'est toute sa vie qui est comme ça, alors que nous, ça s'est distillé dans notre vie, c'est... voilà. Merci pour votre attention.